C'est une tentative de prendre la direction donnée par le contrôleur en vocal. On est toujours dans le train vers Brest.
Voilà, non, prépare-le.
Non, mais ça y est, j'ai lancé. Ah, c'est tout à fait. Donc ça, c'est...
Oh putain, mais on chie.
Mesdames, Messieurs, les 20h25 et d'ici 10 minutes précisément, notre TGV Nouveau entrera en gare de Brest. Notre terminal.
Sortie du train mardi soir. Voilà. Est-ce que Jo, tu te souviens de ta première image, la première fois qu'on est venu, c'est quoi pour toi la première
La première image de Brest, c'est la rade quand on arrive en train et que je pense que peut-être qu'on arrive en journée, je sais pas pourquoi, j'imagine moins qu'on arrive de nuit, mais on voit des énormes paquebots de on sait même pas quoi là sur la rade. Je me rappelle de ça et on descend du train et on va en sortant de la gare là où on est, on va à gauche et on se dit avant de monter dans la ville, on regarde la mer.
D'abord, je me souviens de cette gare hyper belle que je trouve hyper élégante et tout. Et en effet, d'aller tout de suite à gauche, là, et d'aller regarder la rade et de me dire « Waouh !»
Pour Caroline et Jonathan, l'exploration continue à Brest, au bout de la Bretagne, exactement là où la terre finit. Le fourneau déménage du port au Capucin et le bâtiment XXL du Quartz est en rénovation pendant 2 ans. Pour Caroline et Jonathan, il s'agit d'habiter, de ressentir, d'écouter, de prendre le pouls de la ville, d'humer ses embruns. Aujourd'hui, pour ce carnet de bord numéro 4, la balade continue sur la terre et sous la terre. Rencontre avec des habitants, des mémoires, des émotions, des trajectoires. On commence par une exploration des sous-sols avec Christine Bertoubalo.
Donc là, tu nous enfermes dans la
rue Sadi Carnot. Ouais, je vous enferme.
Christine Bertoubalo, du service patrimoine de Brest Métropole.
Vous avez un portable peut-être?
Ouais. Ah oui, tu veux de la lumière?
Ouais, je veux bien.
Ok.
Mais donc en fait, l'abri est hyper long.
Oui.
C'est donc, pas, moi je pensais que c'était un abri genre une cave. En fait, c'est un souterrain.
Ah non, c'est un souterrain, ouais. C'est un grand souterrain. Bon, on va y aller. Alors, je vais ouvrir et allumer. Hop, allez-y, rentrez.
La guerre, c'est le premier traumatisme. Et puis, deuxième traumatisme, c'est l'explosion de l'abri. C'est-à-dire que donc... Parce que, juste, pardon, bien sûr, les civils restent...
Alors,
est-ce qu'il reste beaucoup de civils à ce moment-là?
C'est une bonne question. Alors, je vous dirai plus le nom parce que je vais vous dire des bêtises, mais en fait, il reste assez peu de gens. Mais je dirais que les non-utiles ou les non sont partis. Hein, c'est terrible, non essentiels. Sans doute un peu dur de dire comme ça, mais c'est comme ça que ça se traduit.
Pardon, juste, même si vous n'avez pas de chiffre exact, on est sur quoi? C'est 2000 personnes qui restent, 20 000, 50
000, c'est quoi? On est plutôt
000,
sur 1000, sur 1000.
Ah, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit.
Au début, en fait, les gens se protégeaient assez sommairement dans leurs caves ou dans des tranchées. Enfin, puis très vite, ça devient plus suffisant. Donc, on construit des abris.
Des abris collectifs, en fait.
Ouais, c'est des grands abris. Ce lieu ici, il est marquant à double titre. D'abord parce que ça devait être un lieu d'abri et de refuge, et qu'en fait c'est devenu une tombe. Il y a une explosion, c'est pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi qui se produit. Et donc vous voyez, c'est quand même un tunnel, on l'a dit tout à l'heure, très long, et ça fait comme un lance-flamme. En fait, finalement, l'explosion, elle part comme un lance-flamme et elle détruit tout sur son passage. C'est un véritable piège, en fait, qui se forme, et on aura des victimes. Très peu de gens vont pouvoir s'enfuir.
On se réfugiait à la cave dès qu'on entendait les avions. Ils avaient creusé des
trous. Alerte. Explosion. Bombe. Sifflement lugubre. couvre-feu, effondré, abri, plus rien, débris, éclat, souffle, rumeur, évacuation, réfugiés, sinistrés, anxiété, interdiction, événement, crainte, destruction, crépitement, affolement, samedi, mort, blessé, artillerie, détonation, angoisse, résistance.
Nous sommes encore dans la cave, blottis sous les bombardements, liés par un ruban.
Donc en fait, ce que je viens de lire, c'est les mots qui revenaient le plus souvent dans les documents d'archives qu'on a consultés, surtout les journaux intimes que les gens ont pu écrire et garder et qui nous ont été transmis. Et on a trouvé intéressant de pouvoir sortir ces mots pour en faire une plainte lumineuse et rappeler tout ce qui faisait finalement le quotidien des Brestois et des Brestoises.
Merci. Alors,
6 minutes.
Qui on était ?
Alors, on est Caroline et Jonathan, toujours, je pense.
Oh, regarde cette enseigne.
Alors, je vais réteindre le son.
Ah bon, mais non, on prend le tram.
Ah non, mais non, on le réteint pas. Donc là, nous sommes en train de nous dissocier avec Caroline. Moi, je suis sur le quai à Recouvrance, sur le quai du tram, hein, je veux dire. Et Caro va aller à Vival essayer de nous trouver des piles parce que...
Est-ce que vous avez des piles, s'il vous plaît ?
Très pilophage,
on peut dire. Des LR6, là, voilà. S'il vous plaît, je vais vous prendre un paquet.
Et en même temps, c'est
les
assez
autres,
joli.
Voilà, ceci, absolument.
On entend Caro à Vival qui achète des LR6. Et on l'entend, mais moi-même, vous ne la voyez pas et moi, je ne la vois pas non plus parce que je ne suis pas au même endroit qu'elle.
Si je vous fais une carte, ça va ? Ah bon, super. J'ai pas besoin du ticket, je vous remercie. Hein ? Bonne journée, monsieur.
Et Caro va sortir du Vival, et là je la revois.
Et c'était intéressant ?
C'était hyper intéressant. En tout cas, c'est ce qui, en dehors de l'intérêt, c'est toujours un peu étrange, cette sensation de son sans image.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à l'entrée de Recouvrance, c'est que déjà, ça a une gueule tout à fait différente du reste de la ville. D'abord parce que comme à Saint-Michel à Bordeaux, comme dans tous les quartiers populaires, il y a plein de kebabs. Et ça, quand il y a des quartiers pauvres, c'est souvent le cas, et que ça a tout de suite une tête de quartier plus pauvre, en effet. Même sur les façades et sur les vitrines fermées, en fait, quand même. Parce que là, il y a pas mal de vitrines fermées autour de nous.
Et voici le tram.
La question des habitants, des citoyens, elle est primordiale pour moi.
Caroline Raffin, directrice du Fourneau.
C'est une des premières questions que je peux poser, moi, à des artistes quand ils me parlent de leur intention de création. C'est forcément, pour moi, connecté à une intention de s'adresser un territoire. Quand je dis territoire, c'est un contexte dans lequel des gens vivent. Donc la question de comment cette ville et ses habitants pensent cette ville, l'utilisent, elle est importante en fait, de comprendre un peu le rythme des Brestois, même si évidemment ça évolue en fonction des générations et des quartiers. Et de la manière dont politiquement cette ville évolue aussi, et son urbanisation, puisque clairement elle n'a cessé d'évoluer et elle va continuer à muter.
Je pense qu'il faut comprendre qu'à Brest, on est sur... alors c'est déjà vrai sur la Bretagne, mais encore plus à Brest, on est sur une des villes les moins inégalitaires de France.
Benjamin Grebeau, délégué général en charge de la mission stratégie et prospective de Brest Métropole.
C'est-à-dire que globalement, on a plutôt des pauvres moins pauvres, mais on a aussi des riches moins riches.
Mmh. Brest, c'est quand même une ville pas très riche.
Mathilde Bertrand, coordinatrice du dispositif de réussite éducative de la ville de Brest.
Là, c'est très personnel, c'est pas forcément lié à mon travail, mais le centre-ville n'est pas non plus très riche. Ça dépend où vous vous promenez dans le centre-ville, mais par exemple, si vous allez à la place de Strasbourg, Pléliéroux, c'est pas un quartier riche, quoi. Et pourtant, on est dans le centre. La mixité culturelle, elle est plus en périphérie, malheureusement, comme plein de villes en France. Donc Pont-à-Nézène, Bellevue et Rive-Droite. Voilà. En fait, c'est les quartiers où il y a les logements sociaux, quoi.
Chaque quartier, du coup, a son un peu une identité à Brest, avec des quartiers plus ou moins artificiels, qui, du coup, ont davantage de difficultés que d'autres. Je pense notamment au quartier de l'Europe. C'est un des quartiers les plus difficiles, je dirais, aujourd'hui, sur lequel il y a une attention particulière. La ville en a, hein, bien sûr, mais... Mais il est essentiel, par exemple, pour moi, qu'on y attache une attention particulière et qu'on développe des actions spécifiques à l'endroit de quartiers qui vivent Brest totalement différemment. Et ce quartier, par exemple, a en effet, grâce à une rénovation parallèle, hein, qui s'est opérée en même temps que le tramway arrivait, a changé de visage. Et donc, heureusement que le tram est arrivé aujourd'hui. Bah, ils sont en cœur de ville extrêmement rapidement. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, il fallait une bagnole.
Pont-à-Nézène, ici, donc, c'est un des sous-quartiers de l'Europe. C'est pas mal entouré de zones industrielles, commerciales.
Et avec la présence du tram, ce qui est la grande différence de Bellevue, dont on nous a dit que c'était un quartier super enclavé.
Très enclavé. Dans 2 ans, 3 ans, peut-être plus, parce que il y aura un nouveau tram à Bellevue. C'est un projet. Donc en ce moment, il y a la volonté d'intégrer la population à ce projet-là de renouvellement urbain.
Et le spectre de la gentrification, du coup, ça dit quoi pour vous ?
Ça dit que pour l'instant, Brest me semble pas forcément quelque chose, enfin un territoire où on peut encore parler de gentrification. Enfin, je veux dire, on part de loin quand même. Hein. Sur Recouvrance, par exemple, la population qui vit dans le quartier reste, continue à faire partie des populations les plus précaires de la ville. Donc, avant de parler de gentrification, il y a quand même une marge. Il y a un sujet à remettre de la mixité sociale dans Recouvrance, mais à l'envers.
D'abord, pour l'instant, comme ça.
Plutôt pour essayer de faire remonter, redonner de la valeur au quartier. Mais Brest est une ville, et puis plus globalement, tout le territoire, on est sur une ville où il y a de la mixité partout. On n'a pas de vraie poche de quartier complètement pauvre et des quartiers... strictement riche. Il y a de la mixité dans tous les quartiers urbains. Alors évidemment, il y a des dominantes. Hein. Mais pour autant, il y a bien de la mixité partout. Et je pense que ça, c'est un des axes qui doit continuer à porter la réflexion. Et donc à partir de là, qu'il y ait des... Je vous disais tout à l'heure, la ville a perdu des habitants, des ménages qui sont partis s'installer en périphérie. On va quand même pas se plaindre au moment où ils reviennent. Donc il faudrait pas, au moment où il y a un regain d'attractivité d'une ville qui pâtissait d'une image négative, commence à se dire, oh là là, ça y est, on parle de Brest positivement. Attention, danger. Enfin, je pense qu'il y a de la marge avant qu'on arrive à un problème de gentrification qui signifierait exclusion des plus précaires du territoire. Parce que, voilà, j'entends... gentrification, attention, il faudrait peut-être faire gaffe. Oui, il faut faire gaffe sur la dimension sociale. Il ne faut pas forcément en rabaisser pour autant sur l'ambition du projet urbain.
Forcément, au début, on rencontre plutôt les gens qui nous disent pas assez chouette. Et puis après... Faut qu'on arrive aussi à glisser sur des personnes en disant c'est pas tout lisse. Il n'y a pas que du super et du beau et du sympa. Il y a aussi des gens cons, des endroits chiants, comme partout. Quoi.
Oui, et puis il y a une réalité sociale qui dépasse la carte postale. Quoi. Il va toujours y avoir une envie qu'on raconte une jolie histoire. Ça ne veut pas dire qu'on veut raconter un truc totalement déprimant, mais ça veut dire qu'on veut être un peu juste par rapport à l'endroit, en fait. Mmh. Et ça, c'est plus difficile à saisir. Parce que sinon, on fait des trucs qui sont complètement bateaux et qui n'ont pas d'intérêt, tu vois.
C'est clair, mais c'est que On pourrait avoir un discours super de oui, ça se passe bien, même sur Bellevue, même sur Pontanezen, dire non, mais ça va. Et en fait, non. Et puis juste, pour synthétiser, ben non, ça va pas dans les quartiers. Mais c'est pas grave, hein. C'est juste qu'il faut qu'on cherche comment on fait.
Salut Mickaël.
Salut Caro. Dis-moi, j'ai réécouté le montage là, que j'ai fait là, du dernier carnet de bord, et je trouve que la juxtaposition de la parole de Benjamin Grebeau et de celle de Mathilde Bertrand ne marche pas hyper bien, bah, parce que on a l'impression qu'en fait leur pensée est contradictoire.
Mais ouais, en effet, j'ai envoyé le premier jet à Benjamin, comme on fait tout le temps là, à tout le monde. Et il m'a dit la même chose, en fait. Et je dois l'appeler cet après-midi pour avoir son point de vue là-dessus.
En écoutant la matrice du podcast, il m'a semblé que Mathilde Bertrand et moi utilisons le mot quartier pour désigner deux échelles différentes. Moi, je disais qu'il y avait de la mixité sociale qu'on pouvait observer dans tous les quartiers de Brest. Dans mon esprit, je parlais des quartiers au sens de l'organisation administrative du territoire, donc le quartier des Quatre Moulins, du centre-ville, de Saint-Pierre, de Lambézélec, etc. Là où je pense que Mathilde Bertrand parle du quartier à une échelle beaucoup plus fine, qui correspond d'ailleurs à la réalité vécue hein, par les habitants de ces quartiers précisément.
Et du coup, vous reveniez aussi dans le mail sur la question de la gentrification, où en fait, on a fait cette première interview qu'on entend là il y a moins d'un an, et en fait, vous me disiez, bah, en réalité, aujourd'hui, le constat, les choses vieillissent très vite, mes propos ont vieilli déjà, et le constat est différent.
En fait, je vous disais qu'avant que Brest se gentrifie, il y avait de la marge, et effectivement, on sort quand même alors des effets du Covid. Et puis actuellement, on est à l'automne 2022, on est en face d'une grosse dynamique d'inflation. Donc les prix de l'immobilier continuent de grimper très vite. Et du coup, cette attention à la capacité de chacun de se loger dans les quartiers, d'accéder à un logement, etc., c'est un point de vigilance qui devient de plus en plus sensible. Même si c'est autre chose comme préoccupation que la question de la gentrification, la question de l'exclusion sociale de certains habitants du marché immobilier de la ville est quelque chose sur lequel effectivement une attention mérite d'être portée très fortement.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces précisions et puis du coup on reste en contact pour voir comment les choses évoluent justement et que vous puissiez nous raconter ça.
Merci.
Merci, à bientôt Benjamin.
Au revoir.
Au revoir.
Et sachant que nous, on vient travailler 2 ans sur, tu vois, sur cette question de la ville, d'essayer de la comprendre, etc. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater ? À côté de quoi on ne doit pas passer ?
Bah là, vous n'êtes pas en train de le rater parce que vous êtes en train de venir sur les quartiers périphériques. Ouais, moi ça me donnerait envie de vous dire aller traîner plus longtemps dans les quartiers, aller boire un café dans telle ou telle famille. Et encore, si vous êtes dans la rue, vous allez juste voir des tours et puis vous allez peut-être pas forcément bien vous rendre compte de ce qui se passe, mais ouais, aller traîner le micro si vous avez l'occasion. Les enfants, c'est des super témoins de ce qui se passe. Et sans filtre. Saisir cette vie-là, quoi. Parce qu'en fait, ils ont des vies bien différentes. Ils sont quand même très connectés au monde. Ils ont quand même... Ils ont tout d'un enfant de partout en France, quoi. C'est-à-dire les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le collège et tout ça. Mais leur réalité, elle est un peu différente, quoi. Dans l'appartement, le quotidien, la langue, plein de choses qui sont différentes, qui sont belles. Voilà.
Avant de prendre le train, on est venu faire un petit tour au marché. Et on compte bien acheter des galettes pour repartir avec dans notre train pour les manger chez nous ce soir.
Bon, par contre, il faudrait qu'on ait notre café.
Je crois que tu vas être exaucé tout de suite.
Oh, c'est merveilleux. Merci bien.
Bonjour.
Hop, voici.
Merci, hop là.
Oh là là, je vais vous recharger ça tout de suite.
Merci. Et je veux bien un verre d'eau avec, s'il vous plaît.
Et moi aussi, s'il vous plaît. Donc on est face à Saint-Louis, mais t'as raconté un peu tout à l'heure.
Tu dis ça, qu'on était pareil qu'hier, on est face à Saint-Louis, on est sur l'autre, d'ailleurs, on n'est pas face d'ailleurs, on est sur le côté de Saint-Louis.
Face à la pierre de Donovan.
De Gomorrah. Non, de...
Logona.
Logona. Et qui est vraiment à côté, c'est vraiment à côté de Tougastel.
Non mais Donovan, Gomorrah, Logona, c'est pas mal.
Ok.
Allez, on va chercher nos crêpes et on se casse quand même. Ok. Hein.
Carré.
Je lis en breton. Carter récurrence. Epad meurt à Vloaz et au bête à Gevredigez, mignonnet de récurrence. Au labourat, quand Kals à Yul évite la catte, à Carterman Hag éclade Varvel.
La couette au Deus au songe, quémant à Ezel, au Var, Orlech, Undra, Benak, Davres, Undelven, Graet, Ratos, Graer, Gant, Un, Ersour, Eus, Brest, Jérôme Durand.
Oh, t'as bien dit le dernier truc.
J'ai dit bien Jérôme Durand en Brest, en Brest, toi.
En breton.
C'était le carnet de bord numéro 4 de Brest 2021-2023. Un projet de Chair et d'Os, Caroline Melon, Jonathan Macias. Avec par ordre d'apparition, Christine Berthoubalot du service patrimoine de Brest Métropole, Caroline Raffin, directrice du Fourneau, Benjamin Grebeau, délégué général en charge de la mission stratégie et prospective de Brest Métropole, et Mathilde Bertrand, coordinatrice du dispositif de réussite éducative de la ville de Brest.